Europe 1,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Julia.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Ravie de vous retrouver et bienvenue dans Bien fait pour vous. Vous le savez, ici on chouchoute tous les aspects de notre vie quotidienne jusqu'à midi en direct. Alors ce matin, Julia, on va parler de quoi ?
Eh bien, on va regarder aujourd'hui dans notre assiette estivale. Pastèque, concombre, tomate. Est-ce que vous mangez les bons aliments quand il fait chaud ? Et d'ailleurs, est-ce que cela est suffisant de se gaver uniquement de fruits et de légumes gorgés d'eau en été pour rester en pleine forme ? Vous l'avez compris, on va voir ensemble ce qu'il faut mettre au menu quand le thermomètre grimpe et on vous donnera même quelques délicieuses recettes.
Et puis vous le savez, à 11h45, on parlera de ces tendances qui nous font du bien avec Jérémy Combe. On fera un coup de projecteur sur un truc de saison, les mariages. Connaissez-vous les bonnes manières, les impairs à ne pas commettre quand on est invité, quel cadeau offrir et surtout de quel montant, quelle est la règle, il nous dira tout. Et enfin pour finir, il y aura la chronique lecture jeunesse du mercredi de Nathalie Le Breton. Aujourd'hui, elle a sélectionné des bouquins qui vont nous aider à préparer nos enfants à se séparer un peu de nous pendant les vacances, que ce soit le départ chez les grands-parents ou bien la colo qui approche. Il y a des livres pour apaiser leurs angoisses. Bien fait pour vous, c'est parti.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, ravi d'être en direct jusqu'à midi avec vous. Et ce matin, on vous pose cette question, que mangez-vous en été pour rester en forme, en bonne santé ? Et oui, avec les températures qui montent, il est nécessaire d'adapter un petit peu notre alimentation. Et bien justement, on a la chance d'avoir avec nous le roi du barbecue pour commencer. Bonjour Clément Lanoux.
Bonjour tout le monde, c'est tout le problème, vous le savez, je ne suis pas le seul, mais dans mon cerveau, quand arrive l'été, il y a un dilemme dans ma tête. J'hésite entre summer body et barbecue body, justement. Là, les deux hémisphères de mon cerveau se mettent en tenue, transforment la jolie nappe en ring de boxe, et d'un seul coup, tous les coups sont permis. On y va. À ma gauche, dans la catégorie des poids lourds, l'équipe des aliments dits kiffants. On aperçoit le capitaine Saucisse, toujours fidèle au rendez-vous. Juste derrière, Merguez, la star de la saison dernière. Plus surprenant, elle ne sort que pour les grandes occasions, mais elle est là. Côte de bœuf, une équipe hyper protéinée jusque-là, avec justement derrière elle, accompagnée des célèbres pommes de terre. Et je crois même, pour être précis, qu'il s'agit de la pomme dauphine, puisqu'on me dit qu'elle a fini deuxième à Miss France. Oui, on peut être fan de patates et avoir de l'humour. Le tout accompagné de l'ennemi juré des artères, sauce ketchup, sauce mayo, sauce barbecue, elle a l'air solide, cette équipe c'est clairement la favorite sur le papier, mais face à elle une autre équipe à chaque barbecue, face à elle une équipe redoutable, celle du Summer Body, sponsorisée d'ailleurs par cette émission, soutenue par tous les médecins et nutritionnistes de France, une équipe emmenée par le célèbre duo tomate-concombre qui apparaît sous plusieurs formes, crudité, salade et même parfois gazpacho pour ne pas qu'on la reconnaisse, et puis la recrue de cet été, c'est courgette. Courgette qui, lors de la dernière conférence de presse, avait affirmé être composée à 94% d'eau, ce qui a bien fait marrer l'équipe adverse, hein, qui s'hydrate essentiellement de rosé. Voilà, vous connaissez maintenant les deux équipes. Le match, c'est ce soir à 20h30. Je compte bien sûr sur vous et sur nos invités pour me faire devenir fervent supporter de cette deuxième équipe. Car dans le football, comme dans le milieu de l'hydratation, c'est qui les plus forts, évidemment, c'est les légumes verts.
Mais vous êtes fous, merci beaucoup Clément.
Ouais.
On va à présent dresser, alors concrètement, la table estivale idéale. Alors pas du point de vue de la déco, mais vraiment du côté de la nutrition avec nos invités du jour. En studio avec nous, il y a déjà le docteur Catherine Lacronière. Bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour Julia.
Alors vous êtes médecin nutritionniste à Paris, et puis avec nous également il y a Sylvia Gabé, bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour Julia.
Vous êtes critique gastronomique et autrice du livre Légumaniaque, qui est paru aux éditions de La Martinière. Alors docteur Lacronière, on sait que le corps a besoin d'eau, c'est pas un secret pour fonctionner. À partir de quand on parle justement de déshydratation, qu'est-ce qu'il se passe concrètement dans notre corps ?
Alors il faut déjà savoir que notre corps est principalement composé d'eau, puisque quand on est adulte, c'est à peu près 60%, et quand chez les bébés, c'est jusqu'à 75%.
Qu'est-ce que ça pèse lourd, l'eau, hein ?
Ça pèse lourd, oui, mais malheureusement, il n'y a pas que ça. Mais alors cette eau, on ne sait pas la stocker. Donc, on la récupère dans l'alimentation ou la boisson, et puis on l'élimine par la transpiration dans les urines et aussi par la respiration. Et le problème, c'est que quand on perd de l'eau, c'est ce qu'on appelle la déshydratation, mais on ne perd pas que de l'eau, on perd également des sels minéraux. Et dans ce cas-là, eh bien, on va avoir des effets divers et variés qui peuvent être même très dangereux. On parle de déshydratation grave à partir du moment où on perd plus de 5% du poids du corps.
Ah oui, ça va vite.
Vous faites 3 kilos quand vous en faites 60.
Oui, mais justement,
justement, docteur, comment on sait qu'on est déshydraté parfois? J'ai l'impression qu'on ne s'en rend même pas compte. C'est quoi les signaux qui doivent nous alerter?
Alors, là, le premier signal, c'est véritablement, chez la plupart des personnes, la soif, également la sécheresse des lèvres. On peut...
On entend dire souvent que quand on a soif, c'est déjà trop tard. C'est vrai,
c'est que vous êtes déjà en déshydratation. Il faut regarder également l'aspect des urines qui vont se raréfier, devenir plus foncées. Et alors, le problème de la soif, c'est qu'il y a des personnes qui ne la ressentent pas, en particulier les personnes âgées. Dans ce cas-là, il y a un signe très important qui s'appelle le pli cutané. C'est pas très gentil, mais vous allez pincer la personne et si la peau reste plissée, elle ne revient pas à la normale, eh bien, c'est qu'on a, on est déjà déshydraté.
Julia, elle est bien hydratée parce qu'il y a rien qui reste coincé dans le pli. Qu'est-ce qui peut nous conduire à être déshydraté? Bien sûr, il y a la chaleur, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons qui peuvent nous déshydrater, d'autres causes?
Oui, alors la fièvre déjà, et puis alors c'est vrai quand vous faites un effort sportif, surtout quand il fait chaud, quand vous travaillez dans une période de canicule, les vomissements et les diarrhées. Il y a des médicaments, les laxatifs, les diurétiques, il y a des maladies qui sont mal équilibrées. Un diabétique, par exemple, mal équilibré, va perdre de l'eau. Donc, tout un ensemble de choses auxquelles il faut penser. Et puis, l'alcool.
L'alcool, j'allais dire, ça déshydrate. On sait bien, après, parfois, quand on, hélas, on a fait une fête, et bien le lendemain, qu'est-ce qu'on a soif?
Exactement, parce que l'alcool, voilà, va perturber le fonctionnement d'une hormone qui s'appelle la vasopressine, qui est fabriquée dans notre cerveau par l'hypothalamus. Et cette hormone, normalement, elle permet de réabsorber l'eau. Et bien là, elle ne réabsorbe rien du tout. Donc, on perd de l'eau par les urines et on se déshydrate quand on boit trop d'alcool.
Donc, docteur, en fait, la règle, c'est de ne pas boire plus de 2 verres par jour et pas tous les jours. Mais si on boit 3 ou 4 verres, il faut couper avec de l'eau ou pas entre 2 verres?
Il faut boire beaucoup d'eau, mais vous le dites, la prévention, c'est quand même le mieux. Éviter de trop boire.
Eh bien, c'est entendu. Sylvia, on va voir tout à l'heure ce qu'il faut manger pour rester hydraté, notamment des légumes, évidemment. Et c'est justement l'objet de votre livre, Nous convertir aux légumes. Mais pourquoi? Les Français, on ne mange pas assez de légumes, nous?
Moi, je ne veux pas culpabiliser les gens. Je vais quand même plutôt les féliciter parce qu'on en mange plus que certaines nations. Mais c'est vrai qu'on peut faire mieux. Dans le monde, en fait, 75% des denrées consommées sont issues de 12 espèces végétales seulement. Moi, j'en ai mis 33 des espèces dans mon livre parce qu'elles sont disponibles pour nous.
Donc, il y a vraiment des légumes oubliés, comme on dit.
Ah ben, c'est ça, oui. Ils sont revenus, ceux-là. Donc, ça, c'est bien. Puis, il y en a qu'on ne connaît pas, donc on ne les voit pas. On passe à côté d'eux au marché, mais on se demande qu'est-ce que c'est.
Comment les cuisiner,
oui, voilà, on sait que cette blette rouge, là, jusqu'à maintenant, on la voyait sur les carrefours, parce qu'elle était juste
décorative. Je crois que j'ai jamais acheté de blette rouge non plus.
Vous en avez déjà acheté?
Mais non, je sais même pas à quoi ça ressemble. Pouvez-vous nous la décrire, la blette rouge, quand même?
C'est flamboyant, c'est magnifique, c'était vraiment une vedette des jardins, mais pour la déco.
C'est un légume feuille, c'est ça? Donc des feuilles très rouges ou plutôt bordeaux, non?
Non, elles sont très équilibrées entre le vert et le rouge.
Il n'y avait pas de blanc, il n'y avait pas des blettes blanches?
Alors, il y en a, oui, la blette, le cœur de carde, même, il est blanc, mais cette blette rouge, là, maintenant, elle rentre, elle passe des fleuristes au maraîcher.
Ah oui, et donc, le goût est bon et on peut en faire plein de choses avec cette blette, d'accord. Et même chez ceux qui en consomment des légumes, vous dites qu'on n'est pas si mauvais élèves que ça, les Français, par rapport à d'autres nations. Je crois quand même que vous dites, sans dénoncer personne, on n'est là de toute façon pour culpabiliser personne, mais souvent, les Français ne les préparent pas de la bonne façon, vous dites, les légumes. Quelles erreurs on fait le plus souvent, justement, avec eux?
Bah souvent, on me demande comment les conserver. Alors, je dis, ne les conservez pas.
Mangez-les. Ça se conserve pas longtemps, non, les légumes?
Oui, voilà, le légume aussi se déshydrate. Donc, on va avoir un maximum de goût et puis l'avoir avec son maximum de fraîcheur qui contient aussi les nutriments.
Pendant combien de jours, à votre avis? Ça dépend des légumes, j'imagine.
Oui, ça dépend des légumes, mais les légumes feuilles, vraiment, il faut les conserver le moins possible pour bénéficier de leur maximum des capacités qu'ils ont à nous offrir. Faut surtout pas les surcuire aussi, ça c'est vraiment un défaut qu'on peut tout de suite corriger.
Ils perdent leurs vitamines en plus, ces légumes, si on les surcuit.
Oui, et puis le al dente, c'est pas que pour les pâtes, quoi. Donc
ça marche aussi quand c'est un peu croquant, c'est bon.
Oui, c'est.
Et donc ça marche aussi pour la blette rouge, le al dente. Voilà. Merci, vous restez avec nous, vous écoutez Bienfait pour vous sur Europe 1 et notre prescription des bons aliments à consommer en été continue dans un instant. On va voir quels sont ceux qu'il faut privilégier pour rester au top quand le thermomètre grimpe. A tout de suite.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali,
Mélanie Gomez. Vous écoutez Bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1, bien sûr, dans votre émission Feel Good, Mieux Vivre. Alors ce matin, on vous pose cette question. Que mangez-vous en été pour rester en forme? On vous offre la liste de courses idéales avec nos invités, le docteur Catherine Lacronière, médecin nutritionniste, et Sylvia Gabé, critique gastronomique et autrice du livre Légumaniaque aux éditions de La Martinière. Docteur Lacronière, pour rester hydraté, donc on sait que le premier réflexe c'est de boire de l'eau, évidemment, mais on doit aussi manger malin, parce qu'en fait, il y a de l'eau dans nos aliments, on le soupçonne, mais il y en a peut-être même plus qu'on ne l'imagine, je crois.
Oui, tout à fait. Puis vous savez qu'on perd à peu près 2,5 litres d'eau par jour. Vous allez récupérer un litre et demi par la boisson, mais le reste sera dans les aliments. Et là, il faut penser que certains ont même plus de 90% d'eau. Donc il faut savoir les trouver.
Alors justement, c'est lesquels? Ceux qui sont le plus gorgés d'eau, j'imagine que ce sont les crudités, non?
Les légumes en règle générale. Alors ouais. Là, j'ai eu aussi une surprise, parce que c'est vrai qu'on en parlera, j'imagine, mais le roi incontesté de l'eau, c'est le concombre.
Ah oui.
Mais on pense que quand on fait cuire ces légumes, on déshydrate. Et bien étonnamment, tout dépend de la manière dont vous allez faire cuire vos légumes. Mais par exemple, le fenouil, quand vous le faites cuire à la vapeur ou à l'eau, il aura un peu plus d'eau quand il est cuit que quand il est cru.
Voilà. Ah, j'aurais jamais cru.
Et on est de toute façon avec ces produits-là au-delà de 90% et parfois même au-delà de 95%.
C'est génial, avec le fenouil et le concombre.
Avec le fenouil et le concombre, mais également la salade, les tomates, les courgettes. Alors là, il y a le choix du roi.
Bon, Sylvia, puisqu'on parle de concombre, on va remonter un peu dans l'histoire avec vous. Il commence à plaire ce légume, donc, en France, à l'époque de Charlemagne. Racontez-nous.
Ah oui, bah, même avant, parce que je crois que c'est un des plus vieux légumes dont on a trouvé la trace sur les chantiers de fouilles archéologiques. Il a plus de 10 000 ans. Oui, alors Charlemagne, ça, on s'est documenté. Et puis après, c'est Louis XIV qui était un fondu, si on peut dire, de concombre. Il aimait bien les asperges aussi, on pourrait parler de... Mais là, la saison est finie. On va rester sur la saison qui nous concerne aujourd'hui. Oui, Louis XIV, il adorait le concombre. Et du coup, il a demandé à son fameux jardinier, la Quintini,
de la façon dont il le mangeait, le concombre, Louis XIV
en potage. Alors là, je n'ai pas creusé, sans doute, ça doit être
plutôt cuit. Donc, il faisait tout en soupe à l'époque, non?
Ah oui, il craignait beaucoup l'eau, pour le coup, même pour se laver.
C'est ça. comment vous pourriez nous conseiller, Sylvia, de choisir justement ce concombre et de le préparer? Qu'est-ce qu'on peut imaginer?
Pour moi, la clé pour choisir ses légumes, c'est les choisir de saison, déjà. Et si on peut, de proximité, parce que du coup, forcément, ils seront de saison. Et ils auront été cueillis à leur top de maturité, donc à leur top de nutriments.
Non, parce que moi, si vous me donnez un concombre, je le coupe comme ça. Enfin, d'abord, alors, je le lave, je le coupe et je le mange. Donc, il doit y avoir des trucs plus audacieux.
C'est déjà bon comme ça.
Comment vous le cuisinez, là, par exemple, une petite recette à base de concombre, comment on pourrait le pimper?
Froid en entrée.
Moi, je trouve ça un peu ennuyeux, le concombre, mais c'est mon avis. Oui, je le mélange avec d'autres trucs, mais je lui mets des pignons dessus, des choses comme ça.
Très bien,
mais je trouve qu'il est ennuyeux.
Ou une sauce un peu yaourt, là, non?
Une sauce un peu yaourt avec de la menthe, c'est le tzatziki, là, ou la raita. On peut en faire aussi un potage froid, ça, c'est un grand classique russe. J'espère que c'est ukrainien surtout, mais c'est avec des petits dés de concombre et de l'aneth.
Ah oui.
Donc l'aneth, ça marche bien.
C'est comme un gazpacho de concombre, en fait.
Si on veut, eux, ils y mettent aussi de la viande et des pommes de terre cuites. Alors,
froid de concombre.
Ouais, mais c'est super rafraîchissant.
Et on peut le consommer cuit et chaud, le concombre, ou bizarre?
Et alors, oui, moi, je trouve que c'est une de ces utilisations qui est très intéressante, c'est de l'utiliser en quelque sorte comme de la courgette cuite. Et en fait, la courgette, je vais vous dire, de l'utiliser comme le concombre cru, pour varier les plaisirs et varier
et
être créatif
bon,
avec des légumes.
Le concombre cuit, c'est bon?
Moi, j'en fais un curry ou dans un wok où on fait sauter vite fait les aliments pour préserver leurs nutriments puis faire vite en cuisine. Moi, c'est mon dada de pas passer plus de 20 minutes pour chaque recette. Et donc un wok curry, avec du poulet par exemple, un brin de curry qui va envoyer un peu de goût
et du concombre cuit.
Le concombre qui va être neutre. Tout ça,
à essayer.
Ça fait un plat vite fait bien fait.
Docteur Lacroix, justement, elle l'a un petit peu abordé, Sylvia, elle parlait de la courgette qu'on peut manger crue aussi en lamelles, un petit carpaccio comme ça par exemple, c'est très très bon aussi. Pour maximiser l'hydratation, il vaut mieux les manger crus, les légumes, ou pas? Justement, par exemple, la courgette, elle perdra moins d'eau, j'imagine, si on la laisse crue.
Alors en plus, c'est la saison des crudités, et quand vous consommez les légumes crus, vous avez toute leur hydratation, mais vous avez également des minéraux. Donc ça, c'est très important, mais comme on disait tout à l'heure, on ne néglige pas, même en période d'été, les légumes cuits, puisque vous pouvez avoir quand même une très bonne hydratation avec ces légumes-là.
Ratatouille.
La ratatouille, oui, puisque à base de courgettes, la tomate qui est donc très riche en eau.
Ratatouille qui est très bonne froide en plus d'ailleurs.
Oui, exactement.
C'est pas la peine de la réchauffer. Hein.
Cuit cru, allons-y.
Et du côté des fruits, est-ce que, je sais pas, il y en a qui sont plus gorgés d'autres que d'autres. J'imagine que la banane moyen.
Alors les fruits sont également une très bonne source d'eau, un peu moins quand même que les légumes. En tête, le melon avec à peu près 92%.
La pastèque.
La pastèque, oui. Bien sûr. La papaye, mais là attention, même s'il y a des minéraux, il y a quand même du sucre, donc plus que dans les légumes. Alors, faut faire peut-être attention quand on est diabétique ou autre à la consommation globale, ne pas se nourrir que de fruits. Mais c'est très important également. Vous vous rappelez, le PNNS nous dit 5 fruits et légumes par jour minimum.
C'est le plan national avec les bonnes recommandations alimentaires. Hein, le PNNS.
Mais
ça veut dire qu'une betterave, donc un légume, sera moins sucré que une pastèque.
Alors, vous avez pris l'exemple justement.
C'est pour ça, une carotte sera moins sucrée qu'une pastèque. On est à quel niveau là?
Alors, en fait, on n'est pas très loin hein, de toute façon, mais c'est vrai que la carotte, vous savez qu'elle est la mal aimée parce qu'on la pense sucrée, mais en fait, son index glycémique, son pouvoir sucrant est relativement bas. La betterave, c'est vrai, ça fait partie quand même des légumes qui sont un petit peu sucrés, mais de toute façon, qu'on soit fruits ou légumes, on est très loin des confiseries et des sucreries, donc
on y va au menu. On va parler de la star de l'été, la tomate, évidemment, elle aussi, elle est quand même gorgée d'eau. Je crois qu'en termes de conservation, on ne fait pas forcément ce qu'il faut. La tomate, par exemple, elle n'aime pas le réfrigérateur. Mmh. Expliquez-nous.
Eh oui, c'est là où il faut se rappeler que c'est un fruit. Eh oui. Et comme tous les fruits,
chez moi, elles sont au réfrigérateur. Hein. Mais je fais mal, apparemment.
Pourquoi vous faites ça?
Vous les mettez où, vos tomates?
Dans ma bouche.
Alors, expliquez-nous pour la tomate, pardon.
Oui, il faut les conserver peut-être. J'ai dit que c'était le moins possible, mais le moins possible au frigo. Et puis surtout, deux heures avant de les consommer, les sortir, qu'elles soient à température. Parce que le froid va anesthésier le goût. Le froid anesthésie tout. Donc,
c'est bon quand c'est tiède.
Oui, exactement. Exactement.
Mmh, bon, c'est ce qu'on va faire à partir de maintenant. Docteur Lacronière, la salade aussi, hein, évidemment, c'est bon pour l'hydratation, vous l'avez déjà dit. Autant que pour ne pas grossir, hein, les filles qui font un peu attention. Je dis les filles, mais les hommes aussi, évidemment. Attention à leur poids. Là, on consomme beaucoup. Mais alors, ce que j'ai découvert en préparant l'émission, c'est que c'est très très riche en vitamines, la salade. Moi, je pensais que c'était un peu. Je me doutais bien qu'il y avait 2-3 nutriments, mais je pensais que c'était un peu neutre, la salade. Non, c'est.
Non, c'est effectivement très riche en vitamines. Vous avez de la vitamine A, de la vitamine K. Vous avez des vitamines B, en particulier la B9, c'est ce qu'on appelle les folates, important en particulier pour les femmes enceintes. Il y a des minéraux. Il y a du calcium, il y a du magnésium, et il y a même un petit peu de fer, même si ce fer est moins bien absorbé, puisqu'on est là dans une source végétale. Mais il ne faut pas oublier non plus que la salade, sont des fibres, et les fibres sont importantes pour le transit et pour un meilleur équilibre du cholestérol et du sucre dans le sang.
Mais docteur, toutes ces salades, elles se valent en termes de vitamines ou vous avez des chouchoutes
Non, elles se valent à peu près toutes. C'est vrai que, comme les eaux, comme les huiles, on va les varier. Et puis la salade, c'est vraiment la reine de l'été puisque c'est 15 calories au 100 grammes. On est même en dessous de la moyenne des légumes, 35, ce qui n'est déjà d'ailleurs pas très élevé.
J'ai une idée reçue, j'ai l'impression que la mâche, c'est la star des salades en vitamines. Je sais pas, quand j'en mange, je me sens mieux en fait. Je sais pas pourquoi, mais c'est idiot peut-être.
Hein. Oui, non,
c'est bien, Sylvia.
Oui.
Justement, donc la salade, c'est un légume phare pour rester hydraté. On a vu qu'elle était pleine de vitamines aussi. On devrait même plutôt dire les salades, hein, parce qu'il en existe alors un nombre de variétés, mais presque infini. Hein. Combien à peu près?
Oui, la laitue, elle seule, elle a 100 variétés. Alors, on a l'embarras du choix, si on peut dire.
Elles sont dispo toute l'année ou pas, les salades? Enfin, maintenant, on a l'impression qu'il y en a toute l'année, mais c'est quoi les bonnes salades de l'été?
Voilà. Juste, je faisais une petite parenthèse sur la laitue, parce que c'est laitance, son nom vient du fait qu'elle a une sève laiteuse. Donc, c'est vrai qu'elle va nous donner des nutriments, on s'en doute bien, à travers ce lait de laitue. Mais oui, les salades de l'été, y a un trio qui est magique, c'est la sucrine, la rougette et la romaine. Mm-hmm. Et ça, il faut s'en gaver pendant tout l'été.
La rougette, on n'en voit pas beaucoup, je trouve.
Non. Ouais. Elle va arriver là.
Ouais. Mais on peut en manger toute l'année de toutes ces salades.
Alors, oui, il faut pourvu que le maraîcher les fasse tourner et s'approvisionne effectivement en fonction des saisons.
J'ai vu dans votre livre la salade. J'ai l'impression que vous la faites cuire aussi. Je sais pas, y a pas un velouté de cresson ou des trucs comme ça là. J'ai vu ça passer.
Velouté de cresson, velouté de mâche, velouté de laitue.
C'est bon ça. Hein.
Ça c'est délicieux. Alors c'est vrai que le velouté on le fait soit tout simplement avec une pomme de terre, 2 cubes de bouillon.
Bon, on peut le faire sans pomme de terre
préparé,
si on veut.
Ou sans pomme de terre, voilà, avec un oignon, du coup, on fait revenir un peu l'oignon avant de mettre les salades. On peut rajouter un blanc de poireau aussi pour amener un petit brûlé, peut-être, qui va un petit coup de fumée à ramener du goût. Puis ensuite, des cubes de bouillon, de bon bouillon, de l'eau, de la crème, on mixe.
Mmh, et c'est pas mal, hein. Il est consistant finalement ce velouté de
crème de la pomme de terre.
La sucrine, vous avez parlé de la sucrine qui est la star aussi de l'été. On peut la braiser, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de la chauffer, de la cuisiner, la salade. Comment on la fait ? Comment on braise une sucrine ?
Ah oui, ça c'est une de mes recettes favorites, ça, parce que du coup, moi j'aime bien que les légumes aient de la mâche et soient pas qu'on n'ait pas du tout mixé. Donc oui, la sucrine, elle est très dense. On la coupe en deux et on la fait snacker sur une plancha. Quand tu parlais tout à l'heure du barbecue, moi la sucrine, c'est une reine du barbecue.
En aller-retour comme ça ?
Oui, surtout la face plate
qui a été découpée.
Hein. Et puis ensuite, on y met un anchois, par exemple, un anchois à l'huile. Mmh. C'est un bonheur. Quelques grains de fleur de sel.
Et qu'est-ce qu'on peut faire avec la roquette ? Un pesto, je crois.
Avec la roquette, ouais. Alors ça, c'est la roquette, elle envoie tellement que c'est vrai que
elle est poivrée, elle a du caractère.
Elle a du caractère, oui. Donc ça, c'est sa pleine saison aussi en été. Donc là, un pesto de roquette, ça vaut un pesto de basilic, mais j'ai envie de dire aussi un pesto de fan de radis pour pas les jeter. Mm. Ça, c'est mon grand dada aussi de dire qu'est-ce qu'on fait comment on conserve les et quelles erreurs ne pas faire avec des légumes, mais on mange tout du légume, et surtout on jette rien.
Eh bien, merci à toutes les deux. Bien fait pour vous et de retour très vite avec d'autres conseils. D'autres recettes délicieuses pour vous faire plaisir et vous garder en bonne santé, surtout tout l'été. Et il y aura des courgettes, du gazpacho et même une bonne recette de terrine de chèvre fleurie dans un instant. Donc je vous le conseille, restez bien avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Vous écoutez Europe 1 et c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On fait le point sur les indispensables de l'été dans notre assiette pour être débordant d'énergie, même en cas de température caniculaire. On détaille cela avec nos invités. Tout d'abord, le docteur Catherine Lacronière, médecin nutritionniste à Paris. Et puis avec Sylvia Gabé, critique gastronomique. Bon, alors, on a beaucoup parlé des crudités, docteur Lacronière. Mais pour rester hydraté, en dehors des crudités, il faut éviter, je crois, les plats trop riches en matière grasse. Pour quelle raison ? Pourquoi on ne peut pas se faire une petite raclette ?
J'en reconnais, moi, des accros de la raclette d'été.
Bah ouais. D'abord, ce n'est pas de saison. Hein. On va garder ça pour l'hiver. Vrai. Et puis, ces plats gras, ils sont très peu hydratés. Dans la raclette que vous citiez, il y a 40% d'eau. Donc, on est très, très loin des 95-97%.
D'ailleurs, quand on mange une raclette de nénis, on est complètement déshydraté. On boit toute la nuit.
Je sais pas, moi j'adore la raclette. De toute façon, mais bon, c'est pas la saison.
Et ce n'est pas tout. Quand vous mangez gras, vous avez encore envie de manger plus gras. Et puis, il ne reste plus beaucoup de place pour les aliments autres. C'est vrai qu'avec votre raclette, on n'a pas forcément envie de se faire une petite salade à côté.
Mais par exemple, une petite blanquette de veau en plein été, c'est pas bien ça ? Il y a beaucoup de crème. La crème, c'est pas idéal. Non,
voilà,
pour l'été.
On va essayer de limiter le gras parce que là, on ne favorise pas notre hydratation.
Couscous, il n'y a pas de gras.
C'est peut-être aussi parce que c'est très riche en calories que ça fait fonctionner notre organisme à plein régime pour digérer. C'est ça aussi. Donc, plus on mange de la calorie, enfin des calories, plus il va falloir
Tout à fait. Vous produisez de la chaleur parce que vous voulez digérer ces aliments qui nécessitent plus de travail. Et donc, là, on va dans le sens de la déshydratation plutôt que de l'hyperhydratation.
Alors, le couscous. Ça marche. Il y a des légumes dans le couscous.
Il y a aussi de la viande. Alors, la viande, c'est pas si mauvais que ça. Hein. Mmh. Au niveau d'hydratation, on est à 60%. Surtout si elle est crue, on est même à 68%. Par contre, on va choisir des viandes. Pas comme disait notre ami tout à l'heure, pas trop de merguez ni de saucisses, mais plutôt du poulet et même des viandes rouges maigres. Mais la viande, ça fait partie
de l'hydratation. Qu'est-ce qui est rouge
et maigre,
par exemple?
Du filet de bœuf, une bavette. Un tourne-dos, tout ça,
c'est
ça fait partie,
bon,
un carpaccio. Hein.
Alors, autre légume rafraîchissant, Sylvia, c'est la courgette, on en a dit un mot tout à l'heure, mais comment on la choisit bien ? Est-ce que vous avez des astuces au marché, par exemple ? Parce qu'il y en a de toutes les tailles, moi j'hésite parfois entre les petites, il y en a des très grandes, il y en a des petites, il y en a des jaunes, il y en a des blanches, il y en a des rondes,
des vertes.
Qu'est-ce que vous nous conseillez pour les choisir ?
Comme il disait l'autre, tout est bon dans le cochon, donc
tout est bon dans la courgette. Mais grande ou petite, par exemple, ça fait, c'est quoi la différence ?
Oui, alors moi j'adore les très grosses, très volumineuses, qui me rappellent le potager de ma grand-mère dans le Périgord, parce que du coup, si on la fait en soupe ou en potage froid, en fait, les graines, elles vont apporter une texture.
Parce que sinon, les graines, c'est un peu dérangeant.
Sinon, elles peuvent déranger. Donc du coup, vous les choisir en fonction de ce qu'on va avoir envie de faire. Mais c'est la petite robe noire, la courgette en cuisine. Hein. On fait de tout avec elle. C'est un basique.
Ouais. Et même en dessert, d'ailleurs. Oui, parce que moi, j'ai goûté un dessert en mode moelleux au chocolat.
Ah bon ?
Oui, dans le meilleur pâtissier, j'ai goûté ça. C'était très bon.
Un moelleux au chocolat avec de la pomme râpée ou de la courgette
râpée. Mais ça remplace quoi la courgette alors dans cette histoire ?
On diminue furieusement la quantité de beurre.
Ah !
Et on gagne en moelleux.
Ça apaise en sucre aussi, ça apaise un peu.
Peut-être, c'est vrai que moi je suis pas très, je suis moins bec sucré que goût salé.
Mais la consistance restera bonne si on met moins de beurre et de la courgette à la place.
On va avoir quelque chose de très moelleux et je mets au défi beaucoup de monde de savoir qu'est-ce qui a donné ce moelleux.
Moi il me reste toujours une courgette pas pourrie mais une petite courgette toute seule.
C'est vrai.
Comme les chaussettes
dans le frigo.
Il ne reste qu'une chaussette sur deux dans le frigo. Qu'est-ce que j'en fais de ma courgette solitaire?
Alors, je conseille de la couper par exemple en lamelles, et d'y mettre du parmesan dessus, et puis de la faire juste griller 5 minutes sous le grill du four.
Le docteur Lacronière a l'air tenté déjà,
avec de l'huile d'olive.
Pas beaucoup d'huile d'olive, fleurs de sel et un bon poivre. Et voilà, elle va surtout pas être perdue. Non, il y a pas de. Moi, je suis zéro gâchis dans la cuisine.
Bon, on a dit que c'est évidemment en été, on avait tous envie de faire des barbecues, de manger de la viande grillée. Ça va, on a le droit. Il y a de l'eau d'ailleurs dans la viande ou pas? Je me demandais dans les protéines, est-ce qu'il y a aussi de l'eau?
Oui, il y a 60% d'eau dans la viande à peu près.
C'est pas beaucoup. Hein.
C'est pas mal déjà. Ah, oui. 68% dans une viande crue. Alors si on veut se faire un carpaccio, ouais, et qu'on met ça avec une salade, on est parfait pour l'hydratation.
Mais alors les saucisses, tout ça, tout ce qui nous passionne, ça c'est pas possible. Vous voyez les merguez, tout ça.
C'est possible, génial, mais peut-être moins conseillé. Et puis parce que là, il y a peut-être de l'eau, mais il y a d'autres choses, en particulier des graisses saturées et des calories. Est-ce vraiment le bon moment l'été?
Bah oui, mais vous le faites quand votre barbecue vous... En été, est-ce que docteur, il faudrait aussi éviter les plats trop salés?
Oui, parce que je pense que je reviens sur ce que vous disiez sur la raclette. Je pense que si on a très soif avec la raclette, c'est aussi à cause de la charcuterie, je pense aussi, qui donne soif.
Tout à fait. Bah, alors exactement. Justement, alors là, il faut qu'on parle un peu de ce sel, parce que si le sel est l'ennemi de la rétention d'eau, et celles qui ont de la cellulite sauront de quoi je parle. Eh bien, en fait, le sel est l'ami de l'hydratation, parce que quand on se déshydrate, oui, ça paraît étonnant, on perd de l'eau, on perd des sels minéraux. Et alors, vous savez qu'on peut même réhydrater des gens dans le désert en leur donnant des pastilles de sel. Là, je vous amène un peu en voyage en imaginant la cellule qui baigne dans un liquide qu'on appelle le liquide extracellulaire. Alors, quand vous êtes déshydraté, vous manquez d'eau et vous manquez de sel partout. Donc, si vous mangez du sel, eh bien, pour rééquilibrer, l'eau va passer de l'intérieur de la cellule vers l'extérieur pour rééquilibrer ce qu'on appelle la pression osmotique. Et ça déclenche une sensation de soif. Donc, vous avez tout bon. Vous avez du sel en plus. Vous allez boire, vous avez de l'eau, donc vous réhydratez. Et on donne, chez les personnes fortement réhydratées, déshydratées, on donne des perfusions avec du sodium à l'intérieur.
Donc, j'ai pas compris. On a le droit quand même de
saler ou pas,
Justement, très bonne question, parce qu'il faut trouver le juste équilibre entre la réhydratation et l'équilibre, par exemple, de la pression artérielle. Donc, il faut saler, mais pas trop. Trouver le juste équilibre. Dessaler, en tout cas, ne pas du tout manger de sel, c'est fortement déconseillé.
Oui, faut pas le bannir complètement, mais il faut y aller mollo avec la salière.
Exactement, surtout chez les personnes âgées qui vont peut-être se déshydrater plus facilement.
Mais je crois que d'ailleurs, concernant le sel, c'est pas tellement le sel qu'on va rajouter avec la salière qui pose problème, c'est plutôt les sels cachés. Donc dans les charcuteries, par exemple, il y a beaucoup de sel, c'est ça,
hein,
donc,
sel.
Ou dans les produits tout faits, enfin les plats cuisinés, etc.
Exactement.
Mais le sel de la salière, si on est raisonnable, tout va bien, je crois.
Voilà, puis on peut le réduire. Et puis il ne faut pas oublier non plus, c'est vrai, vous parliez des plats préparés, fort vecteur de sel. Il y a aussi du sel dans la moutarde, il y en a dans la sauce soja.
Et donc à éviter aussi en été pour ne pas se déshydrater, mais à éviter toute l'année si on peut.
Utilisons donc le citron.
Ouais. J'ai une question pour vous, docteur, on a de Michel, près de Montélimar, il demande, on dit que l'été, il faudrait éviter de boire des boissons très froides, mais plutôt les boire tièdes comme du thé. Pourquoi ?
Mais il a tout à fait raison, ce monsieur, oui, parce que en fait, quand vous buvez froid, eh bien, votre organisme va lutter pour rééquilibrer et va produire de la chaleur. Et cette chaleur, elle va vous déshydrater. Donc l'idéal, c'est de boire tiède, 12-14 degrés à peu près.
Ah, moi, je pensais que je bois des thés glacés, moi, donc c'est pas terrible, ça.
Ah, ça vous réconforte sur le moment, mais à plus long terme, en fait, ça vous déshydrate. Et puis le thé, ça déshydrate, parce que ça, tout ce qui est à base de théine va augmenter la perte urinaire.
Et donc, la caféine aussi, ça déshydrate.
Oui. Donc il faut boire des tisanes.
Alors que faut-il manger pour rester bien hydraté en été? C'est notre sujet du jour, hein, Sylvia. Pour une touche de fraîcheur dans nos plats, on peut aussi manger des fleurs comestibles, vous dites. Mais alors, comment on consomme les fleurs? Je vous avoue que là-dessus, je vais caler, là, je ne sais pas du tout.
Ah, moi déjà, je les mets dans le potager. Je les mets, j'alterne un plant de tomates et puis du souci, de la bourrache.
Il faut savoir lesquels se mangent, c'est ça, moi, qui me fait peur, en fait, dans les fleurs aussi.
Oui, il faut un peu calculer son coût, mais les pensées, le souci, la bourrache. La bourrache, c'est la fleur bleue. Les soucis, c'est cette fleur orange pétant.
Vous la mettez sur quoi, la bourrache, par exemple?
Eh ben sur un potage vert, ouais. Là, cette touche de bleu.
Quoi,
c'est, elle a un petit goût, elle a un petit goût de sucre, mais c'est surtout de la touche de déco là.
Ah oui,
fleurs,
là on est plus sur la déco. Ouais. Parce que moi j'ai repéré dans votre livre.
Vous avez repéré toutes les bonnes recettes.
Ouais,
hein, j'ai l'impression.
Une recette qui me fait de l'œil, que Mélanie va me faire, c'est la terrine de chèvre fleurie. Est-ce que vous pouvez lui expliquer comment il faut faire?
Mais je crois que c'est facile à faire. Écoutez bien, Julia.
Oui, non, mais tout est facile avec moi. Moi, sinon ça rentre pas dans le livre.
Alors dites-nous.
Donc la terrine de chèvre fleurie. En fait, l'idée c'est de mettre un film sur un saladier et de filmer complètement le saladier et de déposer les fleurs
au fond, tournées
vers le film, donc à l'envers pour nous, et ensuite de mettre une terrine de chèvre, donc un chèvre qu'on aura un peu assaisonné et puis qu'on aura fait attendre un peu pour qu'il se déshydrate un peu, pour qu'il se tienne. Donc peut-être qu'on va laisser cette terrine attendre pendant une nuit, et le lendemain, on va la retourner, et le fait d'avoir mis le film va permettre qu'elle se démoule. Et là, on va avoir en majeur les jolies fleurs
pour une terrine délicieuse. Alors bon, l'été, évidemment, c'est souvent la saison des apéros dans le jardin ou en terrasse. Mais quand il fait très chaud, effectivement, l'alcool, on évite vraiment complètement.
Alors, on le limite, en tout cas.
Ça fait grossir, en plus, l'alcool. On le rappelle
non,
pas assez souvent.
Non, pas du tout.
peut-être pas vous, Julia, mais c'est vrai que malheureusement, l'alcool, c'est quand même un apport en calories non négligeable. Oui. Et puis, l'alcool, oui, ça déshydrate. Donc, si ça se rajoute à la chaleur ambiante, parce qu'en fait, on ne retient pas l'eau. On va éliminer, quand on boit beaucoup, beaucoup plus d'eau au niveau urinaire.
J'ai vu, moi, des pastilles hydratation dans le commerce, en parapharmacie, tout ça. Qu'est-ce que ça vaut? Il y a quoi dans ces trucs-là?
Alors, on rappelle une chose, la meilleure source d'hydratation, c'est l'eau. Ces pastilles-là sont faites, selon les fabricants, pour réhydrater dans des conditions un petit peu extrêmes. Ils pensent aux pompiers, ils pensent aux personnes qui ont fait un sport important et qui ont perdu de l'eau, parce que ça vous amène des minéraux, ça vous amène du magnésium, ça vous amène du potassium, et puis ça a également du sel, dont on parlait tout à l'heure, pour réhydrater.
Mais au jour le jour, pour des gens comme nous,
ça va servir à rien.
J'y ferai attention pour les personnes qui, puisqu'il n'y a pas que du sel, il y a également du sucre. Donc, si vous êtes diabétique ou si vous êtes hypertendu, demandez conseil à votre médecin. Dans ces situations-là, quand on ne peut pas boire de l'eau de manière suffisante, pourquoi pas? Mais n'oubliez pas, il faut boire, surtout en ce moment.
Eh bien, ça sera fait. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que l'on peut trouver encore d'autres recettes, des tas d'idées pour sublimer les légumes que vous connaissez et les autres dans le livre de Sylvia. Son titre, c'est Légumes maniaques aux éditions de La Martinière.
À suivre, ce sera notre séquence tendance dans quelques minutes avec Jérémy Comon. On va apprendre ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, surtout en matière de mariage, quand on est invité. Et puis avec Nathalie Le Breton, on va vous présenter quelques livres pour enfants pour les préparer au mieux aux vacances, loin de papa-maman. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes de retour sur Europe 1 dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être. C'est tous les matins de 11h à midi et en direct. Alors on démarre maintenant notre partie consacrée aux tendances portée par deux chroniqueurs aujourd'hui. Je commence par vous, Nathalie Le Breton, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Vous allez aider tous les parents qui nous écoutent à mieux anticiper les séparations estivales de nos petits, c'est ça?
Et avoir en tête qu'on va enfin faire grandir nos enfants et qu'ils vont revenir avec des bonnes manières et grandi.
Et peut-être qu'il va falloir préparer les parents aussi, parce que parfois c'est difficile de leur côté également. Nathalie, vous restez avec nous. On va commencer cette partie avec un petit nouveau. Jérémy Combe, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre expert en bonne manière. Je précise que vous coachez notamment les candidates au concours Miss France. Mais notre sujet aujourd'hui, il n'a rien à voir avec ça. Dites-moi, Jérémy, vous êtes invité à des mariages cet été?
Alors moi, je devrais dire que la saison est ouverte. Et si je suis très juste, je devrais dire ma saison des mariages est ouverte. C'est un métier pour moi tous les ans. Et cette année, petite promo, puisque je n'ai que 7 mariages.
Mais c'est énorme, 7 mariages, j'ai jamais vu ça.
C'est énorme. Non, je vous promets, cette année, ça va. Mais je voudrais surtout vous dire que la saison des mariages, c'est du 30 mai à peu près au 3e week-end de septembre, avec un énorme pic. 20 juin, fin juillet.
Mais ça veut pas dire qu'on peut quand même se marier en hiver. Oui. C'est poli de se marier en hiver?
C'est, on peut se marier quand on veut, mais disons que la saison officielle, c'est plutôt l'été parce que on préfère être dehors.
Voilà. Alors déjà, première question, Jérémy, est-ce que les fiançailles, c'est encore d'actualité ou c'est complètement has-been? Si on veut vraiment passer par cette étape, comment bien le faire dans les règles de l'art?
Alors moi, je suis toujours prêt à faire la fête, donc je trouve que les fiançailles, c'est une occasion en plus dans l'année. Les personnes qui sont attachées au mariage, souvent, se fiancent. Les fiançailles, c'est le compte à rebours, parce qu'à partir du moment où on se fiance, c'est-à-dire que le mariage aura lieu un an après.
Ah, c'est obligatoire ça?
Globalement, il y a une règle, un an. Les fiançailles sont organisées dans la famille de la future mariée, c'est-à-dire que c'est la famille de la mariée qui va recevoir. La mariée doit s'habiller en parme, plutôt en clair. Le fiancé
va... en blanc?
elle peut, mais on réserve quand même le blanc normalement pour le jour J, le grand jour. Le fiancé va offrir sa bague en tête à tête, ou avant ou la veille. On n'offre pas le bijou
devant
les autres.
Devant la famille et tout.
Exactement.
Ça, d'accord.
Après, on viendra l'exhiber. On voit ça souvent en Angleterre. On montre la bague de fiançailles comme étant un trophée. Et puis, les invités qui sont aux fiançailles sont les témoins, évidemment, les parents, les amis très proches. On fait un déjeuner. Mm-hmm. Là, on peut offrir des cadeaux. On s'habille plutôt dans
qui
des
couleurs. Qui offre des cadeaux à
les invités qui viennent. On peut offrir des
fiançailles. Ça commence à avoir coûté cher. Je préfère qu'on m'invite.
C'est
pas
ça. De toute façon, être invité à des fiançailles et des mariages, c'est un budget. Je peux vous en parler. Hein.
C'est ça. Bon, c'est le cercle très rapproché, si j'ai bien compris.
Exactement. C'est un cercle rapproché. En revanche, on peut faire une espèce de fête le soir pour inviter ses copains.
Bon, alors avant de se marier, on a généralement envoyé un faire-part. D'ailleurs, si on n'en a pas encore reçu, Julia et moi, cette année, c'est que c'est loupé. On ne sera pas invité cet été, a priori. Hein.
Sauf si le mariage, si on est aujourd'hui, a lieu en septembre.
Ah oui.
Parce qu'il y a une règle très stricte pour les faire part. Il faut qu'ils arrivent 2 mois, jour pour jour, avant le mariage.
Il n'y a rien reçu.
je vais vous en prêter. 2 mois, jour pour jour. L'enveloppe n'est jamais cachetée. Vous voyez, on peut ouvrir. Qui trouve l'enveloppe pourrait l'ouvrir. Parce que si jamais on peut s'opposer au mariage. Donc, si jamais le marié ou la mariée est un peu... on connaît une histoire un peu,
personne ne fait ça, mais on pourrait le faire.
On pourrait le faire.
D'accord. Vous qui avez assisté à des tonnes de mariages, vous avez déjà vu quelqu'un s'opposer à un mariage?
Non.
Ouais, voilà.
Non.
Que dans les films, ouais.
Mais en revanche, ce qu'il faut retenir pour le mariage, c'est qu'on répond...
Dans quel délai, d'ailleurs?
Dans les délais. Il y a toujours une date de réponse. On répond à la date qui est indiquée sur le carton. Je vous en supplie, faites une lettre, ce qu'on appelle une lettre de château, on répond par écrit, même s'il y a une adresse mail sur le carton ou un site, parce que ça facilite l'organisation, c'est quand même plus agréable de recevoir une lettre écrite, et on répond toujours à un mariage aux mamans. C'est-à-dire que c'est à la mère de la mariée ou du marié, la famille dont vous êtes le plus proche, que vous allez répondre. Alors, je vous entends, et qui paie? On parle pas d'argent.
Non, c'est mal poli.
À la maman qu'on répond. Voilà, aux mères.
Mais Jérémy, le jour du mariage, qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire? Parce que j'ai l'impression que j'ai déjà commis des impairs parfois.
Par exemple, sur votre tenue.
Oui,
non, je suis sûre.
Voilà, mais on dit toujours, il faut pas arriver en blanc comme la mariée, par exemple.
Exactement.
On évite
la couleur blanche ou beige si on sait que la mariée va être dans cette couleur-là. En revanche, il y a des mariées aujourd'hui très modernes qui se marient en jaune, en fuchsia ou en rouge.
Mais on a le droit d'être plus jolie que la mariée ou pas?
Ah ben voilà, une petite crise d'égo en plein mariage. Justement, on met pas non plus. Moi, je prône les chapeau parce que ça fait de belles photos, mais si vous n'êtes pas dans le cercle très rapproché, n'arrivez pas avec une soucoupe volante sur la tête.
D'accord.
Il faut savoir garder la distance. Si le mariage est coloré, si la mariée s'habille en couleur, vous ne prendrez pas la couleur de la mariée.
Mais comment le savoir, Jérémy?
Une indiscrétion, vous pouvez toujours aller un peu...
À la pêche aux infos.
Les femmes, c'est très simple, vous n'arriverez pas non plus pendant la cérémonie religieuse, quelle qu'elle soit, avec un décolleté ou les épaules dénudées, vous mettrez un petit châle, une petite veste.
Pourquoi?
Parce que pendant la partie religieuse,
on est à l'église là, évidemment.
On est à l'église. Autrefois, on se changeait le soir pour les femmes. Aujourd'hui, vous pouvez rester habillé de la même façon. Et pour les hommes, si c'est pas écrit smoking ou habit, vous porterez des costumes, messieurs, qui vont du gris éléphant au bleu marine, pas de noir, pas de beige. Et surtout, messieurs, parce que j'en ai trop vu, l'étiquette qui est collée, qui est cousue sur votre manche, c'est pas un blason ni un écusson, ça se découd. Pareil. Pour la fente derrière de votre veste.
On le voit tout le temps, même dans le métro. Moi,
voilà.
Je vois qu'il repasse détaché.
Le fil, on découd. Parce que souvent, on a l'impression que c'est... Il est neuf, mon costume. Non, là, tu as l'air d'un petit plouc.
Bon, d'accord. Voilà. Parce que moi, je m'intéresse aussi aux soirées. Est-ce qu'il y a des astuces à connaître lors de la soirée?
Alors, la soirée, le dîner, etc. Si vous organisez le mariage, mélangez les invités par génération. Ne laissez jamais des couples les uns à côté des autres. On laisse seulement les fiancés pendant l'année de leur fiançailles et l'année, un an après leur mariage.
Donc,
il faut
donc
séparer
à peu près
les
2 ans. Si le couple a 3 ans, on le sépare.
Voilà, exactement. Et si jamais vous allez à un mariage avec vos maris ou la personne qui vous accompagne, on ne vous colle pas l'un à l'autre, sinon allez vous faire un tête-à-tête.
Allez, pour terminer rapidement, Jérémy, en termes de cadeaux, donnez-nous des tuyaux, s'il vous plaît, le fameux cadeau de mariage.
Toujours l'angoisse, parce qu'il y a toujours le cadeau commun, donc les personnes voient combien vous mettez. On a toujours tendance à mettre davantage sur un cadeau commun que ce qu'on offrirait normalement. Si jamais vous devez mettre de l'argent dans une enveloppe, c'est vous avec votre conscience, mais on met la somme qu'on a envie de mettre.
Il n'y a pas de règle sur la somme. J'avais entendu dire que c'était au moins à peu près le prix d'un repas.
À combien revient le repas?
On ne sait jamais. Mélanie, on lui a donné 20 euros pour son mariage. Elle me l'a dit en préparant l'émission.
A fait ça.
Ouais, c'est pas beaucoup. Les autres, ils ont été beaucoup plus généreux.
Vous voyez, 20 euros, il faut les assumer. Et si jamais vous faites.
Je précise, c'est quelqu'un qui a beaucoup de moyens. C'est pour ça que j'ai trouvé ça bizarre.
Et si jamais vous faites un cadeau hors liste, vous inviterez les mariés chez vous pour leur offrir. On n'arrive pas avec son cadeau le jour du mariage.
Bah
c'est
oui,
un peu pénible.
Ça encombre.
Et si vous faites un cadeau hors liste, il faut vraiment que ça, ce soit une passion pour les mariés. Ou alors vous leur offrez quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire. Si c'est pour leur offrir une théière, autant aller mettre de l'argent sur la liste de mariage.
Ça serait une œuvre d'art, enfin quelque chose qu'on a fait de ses propres mains, par
exemple. Exactement.
Voilà. Eh bien, merci Jérémy pour tous ces conseils qui seront bien utiles à tous ceux qui se marient ou qui sont, comme vous, invités à un mariage prochainement, les Vénards.
À 7 mariages.
À 7 mariages. Au moins maintenant, on connaît les règles. On va se tourner à présent vers notre spécialiste littérature jeunesse. C'est vous, Nathalie Le Breton. Les vacances approchent, évidemment, les enfants se réjouissent, mais pour certains, l'inquiétude monte sourdement quand ils vont partir sans leurs parents, en colo, dans la famille. Mais heureusement, les livres sont là pour ça.
Mais oui, parce qu'il faut arriver à mettre des mots avec nos enfants et, si possible, anticiper. J'ai quelques bons livres. Le premier s'appelle Lynn et Bulle, première vacances sans papa et sans maman. On est vraiment dans le sujet. C'est sorti chez une maison d'édition qui s'appelle Le gâteau sur la cerise. Mmh. C'est pour vous dire à quel point c'est pour faire bouger la focale des enfants et un petit peu les déranger. Cette petite Lynn, elle est prise dans ses émotions. À la fois, elle est très contente. On vient de lui apprendre qu'elle va rejoindre ses cousins. Et en même temps, elle se dit, mais c'est terrible, mais je vais pas savoir, mais sans papa, mais sans maman, etc. Que faire? Alors bien sûr, on va vous dire préparer les valises, mettez des petits post-it avec des bisous, mais ça n'est pas suffisant. Elle va se confier à son lapin. Et son lapin va lui dire, mais tu sais, t'as déjà passé des grandes étapes. Et c'est ça qu'il faut arriver à dire aux enfants. Tu es rentré à la crèche, ça s'est bien passé, t'as eu un peu peur, puis tu es passé ensuite à l'école maternelle. Le bon truc aussi, c'est ce qui va se passer pour Lynn, ça va être d'aller glaner les encouragements de sa grande sœur. Parce qu'elle se dit, oui, d'accord, j'ai su faire ça, mais quand même, me laver les dents toute seule, manger toute seule, je vais pas y arriver. Et donc la grande sœur lui dit, mais facile, trop facile. Et quand c'est gagné, c'est ce qui se passe avec la petite Lynn. C'est quand enfin les parents très justement lui font raconter au petit frère qui est derrière à la fois ce qu'elle va faire, ce qu'elle va apprendre et le plaisir qu'elle va avoir.
C'est génial. Alors justement à propos de crainte parentale, on en parlait tout à l'heure, il y a aussi celle des parents divorcés qui vont se retrouver en solo avec leur enfant pour des vacances. Hein.
Alors je pense surtout aux papas qui nous écoutent parce qu'il y a quand même beaucoup plus de papas qui prennent longuement leurs enfants et dont l'enfant a été surtout chez la maman. J'ai quelque chose d'hilarant, ça s'appelle Émile en vacances, c'est sorti aux éditions de La Bagnole, une édition québécoise, comme son nom l'indique, un livre de Martine La Tulipe, là aussi c'est québécois, et de Mako. Et c'est super, parce que là on a ce petit Émile, et il nous fait une tronche, mais alors une tronche, excusez-moi Jérémy, les livres enfants sont comme ça, parce que son père lui avait promis des vacances dans un parc d'attractions, et finalement ça se termine au camping. L'horreur. Et là on voit progressivement l'enfant pénétrer dans la forêt et l'air de rien s'émerveiller. Et son père est là de culpabiliser en disant « Non mais t'inquiète pas, je ferai mieux l'année prochaine. Oui, c'est sûr que les guimauves, là, sur le feu de bois, c'est quand même moins bien qu'un hot dog. Mais le gamin, lui, il est trop content d'avoir des guimauves. Et puis quand même, effectivement, cette nuit étoilée, c'est quand même moins bien que la maison ou le train hanté dans la fameuse foire en question. Mais si, c'est fabuleux, il y a des bruits bizarres, on entend des bêtes, etc. » Cet enfant passe des vacances merveilleuses. Et son père lui dit vraiment, j'ai fait ce que j'ai pu, mais tu sais, c'est promis, l'année prochaine, on repartira dans un parc d'attractions. Oui. Et là, le gamin de refaire la tronche.
Je veux rester au camping.
Je veux repartir au camping. Ouais. C'est gagné.
C'est sympa pour les papas qui sont inquiets. Mais c'est vrai aussi que ça nous inquiète, ça les inquiète, mais ne soyons pas hypocrites au global. Franchement, les vacances, loin des parents, ce sont surtout, enfin, dans mon souvenir, en tout cas, des sacrés moments et des sacrés, justement, souvenirs en perspective, Mélanie, non?
Bah oui, complètement. Oui, je vous reconnais là, toutes les deux. Il faut positiver, mais oui, on ne le dit pas trop, parce que quand même, on veut les faire un peu payer, nos parents. Ouais. Mais on a des bonnes histoires à raconter. C'est l'histoire de Clovis et Oups, Marin d'Odius. Superbe livre, magnifiquement illustré, Aurélie Valogne et François Ravat, sorti au Flammarion Jeunesse. Et là, c'est bien parce que ce Clovis se raconte, il part chez ses grands-parents, et chez lui, c'est la fête. Et c'est doublement la fête parce que le grand-père, il est un petit peu à l'ouest. Et d'un seul coup, dans cette histoire, c'est le grand-père qui est la victime. Alors à chaque fois, c'est des aventures incroyables. Coup de vent, le grand-père perd son slip de bain. Il se retrouve tout nu sur le sable. À chaque fois, il y a une péripétie. À chaque fois, c'est davantage. Et donc, le grand-père va perdre ses lunettes dans l'eau. Après, ils font s'arranger parce que la grand-mère est bien sous tout rapport. Elle a tout anticipé, tout préparé. Et alors, lui vit ses aventures avec son grand-père. Ce qui est intéressant, c'est que le grand-père est la victime et pas l'enfant. Vous voyez le changement de focale qui est proposé et il nous raconte, et ce ne sont que des bons souvenirs, le pauvre grand-père. Oh. Il n'aura même pas le droit à sa glace alors qu'il est devenu tout rouge en jouant à la momie sur la plage. Excellent livre.
Merci beaucoup Nathalie. En général, on les retrouve bien grandis, nos enfants, après tout ça. Ça fait très, très, tout drôle en fait. Merci Nathalie pour ces livres dont on retrouve les références sur europe1.fr. Vous continuez de rechercher des pépites tout l'été pour vos box par abonnement notisseautant.fr. Et puis, vous qui nous écoutez, restez curieux de ce qui se passe dans la région et même le village où vous allez, car partout en France, grâce à l'opération Partir en Livre du Centre National du Livre, vous pouvez profiter avec vos enfants de séances de lecture, d'ateliers avec des auteurs et même des colos gratuites autour des livres et de l'amitié. Voilà, notre émission est terminée pour aujourd'hui. Bien fait pour vous. Sera de retour demain à 11h. Julia, on aura quoi au programme demain ?
Eh bien, l'été est arrivé, avec lui le beau temps. On se réjouit, oui, mais attention, pas trop vite. Les bobos de l'été vont faire aussi leur grand retour. Piqûres en tout genre, cystite, jambes lourdes. La chaleur et le soleil peuvent causer quelques petits tracas qu'on prendra évidemment le soin de prévenir ou de traiter demain dans Bienfait pour vous.
En attendant, on va laisser la place à l'info sur Europe 1, car à présent c'est Europe Midi avec vous, Romain Desarbres. Quel est le menu chez vous ?
Dans Europe Midi, on va parler de l'ambiance qui est déjà électrique dans l'hémicycle. Un député La France Insoumise, sans veste, sans cravate, qui refuse de serrer la main d'un député RN. Un député RN qui, lui, fait référence à l'Algérie française. On en parle dans Europe Midi. L'ambiance, je vous le dis, est déjà électrique. On sera avec vous au 39-21. On sera également avec Ludovic Mendès, député Renaissance de la Moselle, et avec Hugo Bernalicis, député NUPES, tendance France Insoumise du Nord. Voilà le programme.
Merci beaucoup Romain, à tout de suite.
À tout de suite.